C'est le temps des papous sur France Culture. Bonjour. Au menu, défilé d'insultes à la Haddock. Et puis, une vie de couteau à couper les rimes par Eva Almassy. Les gonfleurs de texte du côté de Flaubert. Et drôle des pistoliers chez les trois mousquetaires. Avec D'Artagnan par le fougueux Lucas Fournier.
Athos, à Porthos, à Aramis. Du pivane, les amis, à moi, à nous, à vous, à l'aide, miradiou. Une ennemie plus mortelle encore que Milady de Winter et plus reptilienne que le cardinal nous menace.
Ensuite, le match expert contre faussaire ou pasticheur bluffeur. Avec Gérard Mordilla et Dominique Muller dans la peau des experts. Dominique ?
C'est bien, oui.
Oui.
Alors, comme c'est le tout premier que j'entends, j'aurais tendance avec enthousiasme à me dire « Mais oui, c'est du San Antonio tout craché. »
Oui.
Si seulement je savais à quoi ça ressemblait.
Merci de votre fidélité à nos jeux papous. Bienvenue à ceux qui écoutent pour la première fois. Françoise Tressard et la belle équipe en piste jusqu'à 13h59. Pour un numéro des papous à podcaster pendant un an sur franceculture.fr. Les remarques ou questions, c'est à la rubrique commentaires ou sur notre page Facebook où vous pouvez nous rejoindre, les amis. On se lance avec une nouvelle liste, celle des insultes à inventer à rallonge et jamais vulgaire, des insultes façon capitaine Haddock. Dans l'ordre, Odile Conseil, Jean-Bernard Pouy, Ricardo Mosner et Lucas Fournier. Odile.
Suceur de tapioca.
Petite tête de lézard fumé.
Trou de gruyère.
Clavio farci.
Mouche à caviar.
Tête de gondole.
Tête des pamplemousses moissies.
Fucus vésiculeux.
Porte mochère, vasistas obstrué.
Résidu de Medef.
Espèce des poulets industriels.
Algorithme népérien.
Mal rebouché de la fontanelle.
Rodion de limace.
Tais-toi, fromage des marois à la 42 degrés sur la plage.
Avis de prélèvement.
Dévisser du chapeau.
Regardez hyène farcie aux déchets nucléaires.
Domenech plus ultra.
Hipster monozygote.
Oulipien de mes genoux.
Tranche des vaches folles sur un radeau.
Outrocuidant.
Vélibécassine des 4 lundis.
Zlatan mou.
Misérable bulot neurasthénique.
Mayonnaise en tube.
Délocalisé, expurgé, externalisé, redimensionné, rationalisé.
Espèce de fédéraire hystérique.
Non. Ça ne peut pas être une insulte.
Espèce de fédéraire hystérique.
Et je redis non.
Brandade de chicot.
Décousu du nombril.
Vegan pas cuit.
Troglodyte dans un pot de corn.
Mangeur de nouilles.
Smartphonisé, dégénéré du pouce.
Gluten de mes deux.
Pine d'huître.
Oh non.
Ah si, il est très bon celui-là. Il l'a dit.
Défiscalisé du bulbe.
Médoc village.
Rhinocéros baveux, ravagé par la goutte.
Tarantino Rossi.
Carcasse des marmottes à l'huile des vidanges.
Transamina supernase.
Radoteur de la méduse.
Basse-cour de la haute.
Canal du Colédoc.
Pédaleur en smoule.
Et Kachaturian Shostakovich.
Papier mâchouillé, vieux chewing-gum.
Espèce de frondeur.
Éthylotest.
Révisé à la baisse.
Espèce de George W.
Bigorneau du dimanche.
Sudoku Cuxlan.
Radar à mouche.
Foie de génisse. Rasoir jetable. Mousse à cacadois. Modulation de conscience.
À suivre un autre dimanche. Et maintenant, la parole est à une chose. Alors, dans la vraie vie, le masculin l'emporte sur le féminin. On peut en souffrir, on peut le regretter. C'est comme ça. Mais chez les choses, pas de domination des hommes. Un chose, une chose, tous les objets sont des manipulés. Et ils nous racontent aux papous, dans la tête, leur bonheur ou leur cauchemar. Eva Almassy, toute chose, le temps d'un jeu, vous seriez quoi ?
Moi, je suis un couteau. Et comme je voulais montrer mon tranchant, j'ai fait des alexandrins parce que j'ai coupé chaque verre en deux pour les hémistiches.
Ah !
Donc j'ai déjà servi pour faire le poème.
Et vous n'êtes pas très propre, alors.
Ah, mais c'est mes vers. Ce n'est pas des vers de terre.
Pleine de vers, si.
Pleine de lettres, en tout cas, ouais.
Dans la famille Couteau, si tu demandes le fils, exige qu'on t'offre, moi, un beau couteau d'office. Si t'es pas trop manchot, mais plutôt bon cuistot, un chef, un maître queue, bon père de famille, ou femme cuisinière, grand-mère, sa petite fille, vieux garçon, jeune mari, il n'y a que moi qui taille, le plus polyvalent qui tranche, émince et taille. Je suis un peu petit, mais grand par mon savoir, qui sait se rendre utile matin, midi
et
soir. 10 centimètres, guère plus, et point trop il n'en faut, en vrai acier forgé, car il en est des faux. Mon inox, pas d'intox, est solidement rivé dans un manche noir, le compagnon rêvé. Le couteau sans manche qui a perdu sa lame, ça ne sera pas moi, je vous jure sur mon âme. Toute la coutellerie n'a pas ma qualité, ni aussi pointue, ni aussi affûtée. 20 centimètres, je précise, c'est uniquement ma lame. Parce qu'en tout, je fais 20 centimètres.
Ah, bah oui, quand même.
Ne me méprisez pas.
Vous n'avez pas de dents, hein?
Non, ah, non, ah, non, ah, ah, surtout pas. Non. Les couteaux.
C'est si un sans dents.
Mais j'en parle même pas tellement. C'est l'âme des poètes. Méprise. De toute l'artillerie, le meilleur, le plus beau, c'est celui d'office, le commandant Couteau. Laissons les gros œuvres au couteau de boucher, qu'il désosse, qu'il massacre. Moi, sans l'air d'y toucher, c'est avec ma finesse que je rends plus digeste et plus fin les morceaux, avec de jolis gestes. Prends-moi dans ta main, la vie commune commence, la question étant, et ce soir, qu'est-ce qu'on mange? Oh, ce que moi j'aime, si tu coupes des tomates, le jus rouge qui coule quand tu veux, camarade, contrairement aux oignons qui te font tant pleurer, ou encore le fromage qui me fait poisser. Jacques l'éventreur n'est pas mon maître à penser, Ducasse et Bocuse sont ma tasse de café. Cependant, il faut dire, je t'aime moi non plus. Si tu es étourdi, je te coupe à ton insu. Sans vouloir t'offenser, je crains qu'avant l'usure, tu me jettes aux ordures avec les épluchures. Après, tu auras beau tout fouiller aussitôt. Adieu, le chef des chefs, place au second couteau.
Ah voilà, on l'attendait lui, hein, vous le guettiez, lui, qui a fourni.
Ah, il fallait pas la louper quand même.
Eh non, non, il est sympathique, il parle pas trop de son manche, on sait pas s'il est en nacre.
J'ai juste dit noir, donc c'est pas en nacre.
Oui, on peut
maintenant,
rêver.
Maintenant, c'est en plastique, mais très dur.
Ah, ça c'est dommage.
Non, mais ce qui compte avec Eva, c'est l'âme, vous savez bien.
Oui, oui. Évidemment, c'est l'âme.
L'âme
des poètes.
Et ne s'y est pas prise comme un manche, bien entendu.
Il va pas avec les manches du bouton.
À part cette réflexion très pointue, est-ce que vous avez quelque
pointue,
chose à dire?
Pointue d'ailleurs, c'est calme, bravo.
Oui, merci.
Oui. Et là, on a fini de rigoler maintenant.
Sur ce couteau, on a fini de rigoler. Oui. Ah bon, oui. Vous êtes qui?
Je m'appelle Smart Robot Magique Mix Cutter.
Ah là
Cette lame rotative électronique en dents de requin, précision au 12e de millimètre. Coupeur, tailleur, sécateur, débiteur, hachoir, malaxeur, déchiqueteur, broyeur, made in Germany, 12 000 tours minute, 2000 watts, 16 gigas.
C'est impressionnant ça.
Ouais. Et je rigole de toutes mes dents de couteau, et je m'en paye une tranche. Et il est futé le petit couteau, hein, et même affûté. Oh salaison, oh couteau, quelle lame est sans défaut. Tu vois, on n'y coupe pas, moi aussi je sais faire le poète. Mais je n'ai pas qu'une lame, petit joueur. Moi c'est 7 épées hors du fourreau, au destin sanglant nommé Nubos, Malouren, Gibeline, Podoli, Sainte-Fambeau, Durandal, Paline. 7 épées sont dans ma machine. Et toi, petit couteau, même pas suisse. Alexandrin, Alexandrin. Est-ce que j'ai une gueule d'Alexandrin? Dis donc, coupe-papier, tu peux me dire à quoi sert un Alexandrin quand on fait le parmentier de canard, ou le velouté de pané, ou l'émulsion de nèfle? Hé, lima-ongle, tu oublies que tu n'es pas là pour débiter des hémistiches, mais du saucisson en rondelles, et proprement. C'est fini, petite lame. L'erato ne rentrera plus dans la cuisine. Les rondelles ne passeront plus. Océano-inox, il faut que tu te tailles. Ici, à la direction, on a décidé de trancher, de couper la mauvaise grâce. Fini les longs couteaux, à la niche les canifs. Les fines lames, moi je les calme. Maintenant, le grand seigneur des lieux, c'est moi. Dans la cuisine du futur, dans la cuisine enfin intelligente. Ah, le bonheur des tomates qui seront touchées, enfin harmonieusement, tranchées,
subtilement, scientifiquement, millimétriquement, zing ! Et la joie de l'oignon qui ne fera plus jamais pleurer ma virilité de machine, zing ! Et la félicité du carpaccio qui atteindra enfin le paroxysme de la transparence, zing ! Adieu couteau, le temps de l'âge de fer est révolu. Adieu couteau et tes crocs de boucher. Adieu couteau, ta coupe est pleine. Zing !
Vous devriez rentrer dans votre tiroir, hein, parce que ça va mal se passer pour vous, Eva.
Mais non, j'ai des tas de robots et tellement ils sont difficiles à nettoyer qu'il faut ma pointe pour déloger les petits débris qui restent tout le temps dans son ventre.
La cuisine est tellement intelligente qu'elle ne se salit même plus maintenant.
C'est bien dit.
Ça m'a ouvert l'appétit en tout cas, tout
ça. À la niche, les canifs. Oui, à la niche, les canifs.
Este programa tiene pajaritos en la cabeza y es en Francia Cultura.
Eh oui, c'est tout à fait ça, Ricardo. Et maintenant, permis de construire pour Patrice Delvaux, Jacques Vallée et Hervé Letellier. Permis de bâtir une histoire à partir d'une simple petite phrase en la gonflant de l'intérieur. C'est-à-dire que la structure demeure, pas touche au premier et au dernier mot. C'est un peu comme on agrandirait une maison en respectant les quatre murs. Le premier à jouer, c'est vous, Patrice Delbourg, à qui j'ai offert une bien jolie petite phrase à mon goût, en tout cas bien écrite. On peut l'écouter, Patrice ?
Elle grignotait quelques noisettes ou bien, appuyée du coude, s'amusait, avec la pointe de son couteau, à faire des raies sur la toile cirée.
Vous savez qui c'est, elle ?
Ça peut être Zazie.
Ah non, c'est plus ancien. Ce serait qui, Hervé ? Jacquin ?
Une héroïne du 18e ? Un petit indice.
Ah oh, bon non.
Madame Bovary.
Madame Bovary, ah, bravo, dit le conseil. Oh, vous l'avez dit comme ça, au pif ?
Jamais, certainement pas.
C'est du Flaubert, absolument, relisez-nous ça.
Alors si c'est du Flaubert, je vais m'appliquer.
Il y avait de la toile cirée chez les Bovary ?
Ouais. Eh ben oui.
C'est fou ça.
Ouais. Allez-y.
Elle grignotait quelques noisettes, ou bien appuyée du coude, s'amusait, avec la pointe de son couteau, à faire des raies sur la toile cirée.
Je trouve que tout dans ce roman est porteur de jeux possibles. Toutes les phrases sont merveilleusement écrites, non ?
Oui, c'est...
D'accord ? C'est avec très, moi très sur Flaubert ?
On dirait du Flaubert.
Oui. Alors, est-ce que... Bon, vous ne saviez pas que c'était du Flaubert, mais est-ce que vous avez eu envie de continuer dans ce beau style ? Je sais que vous aimez la belle langue, Patrice Delbo.
Ah ben, j'aime la belle langue, mais là, j'étais sidéré par la qualité de ce texte. Donc, j'ai vraiment rajouté que des petits détails. J'ai pas osé continuer, j'ai pas osé avancer.
Ah oui, continuer, c'était pas le jeu, oui.
Oui, justement. J'aurais pu déborder.
T'as bien fait.
J'ai eu envie de déborder, mais on m'a dit que ça n'était pas le jeu.
Non, il faut respecter le
oui,
premier.
Oui, je restais dans le
et
cadre.
Et les derniers mots.
Comme à Saumur.
Mais avec un projet d'histoire ou pas ?
Aucune.
Pas d'action.
Aucun projet, pas d'action, surtout d'écrire, préciser quelques petits mots de Flaubert.
Bon. D'accord.
Mais pas plus. Surtout pas plus. Elle grignotait toujours quelques noisettes à la cantine. Elle aimait ça. Ou bien, alors, appuyée du coude sur la table de Formica, elle s'amusait avec la pointe acérée de son couteau suisse à faire des raies concentriques sur la purée mousseline qui ressemblait alors à une toile cirée.
Bon, c'est très joli, on change d'époque avec voilà. Le Formica, évidemment. Le couteau suisse, non, peut-être pas, c'est très ancien.
Le Flaubert à Modiano, très peu de temps.
Oui, exactement.
Le couteau suisse est très ancien, mais il n'avait pas autant de lame à l'époque.
C'est ça.
Il y a une espèce de glissement de Flaubert vers Echnoz, un peu.
Ah oui, c'est très très bien, c'est un joli texte.
T'aurais dû donner le nom de la rue.
Mais peut-être que Jacques Vallée va nous le donner, le nom de la rue. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce texte?
Bah, c'est un très beau texte, il ne fallait pas y toucher beaucoup.
Donc pareil, pas d'action?
Une petite action.
Oui,
petite,
quand même.
Je crois que mon camarade qui vient après a regretté qu'il n'y ait pas assez d'action.
Ah bon, donc lui, il a dû en rajouter, oui.
Oh oui.
Bon. Mais vous, vous êtes plus contemplatif, Jacques Vallée. Donc, vous poursuivez dans la veine d'Elbourgeoise.
Oui, avec quand même un moment, quelque chose de trouble, quand même, un peu.
Oui.
Elle grignotait quelques miettes quand elle était plus jeune et disait toujours que c'était trop. Elle emportait une ou deux noisettes pour son repas à la cantine. J'avais pourtant pensé aux petits plats qu'elle aimait. Ça allait des girolles, aux épinards ou bien aux choux de Bruxelles. C'est alors qu'elle s'était appuyée du coude sur mon épaule et brusquement avait renversé la table en formica. Je croyais qu'elle s'amusait, mais elle se tourna vers moi menaçante avec un regard trouble. Elle dirigea vers moi la pointe acérée d'un couteau, c'était son couteau suisse. Elle s'appliquait à faire des moulinets comme des raies dans l'espace, des gestes désordonnés et concentriques qu'elle dirigeait sur moi. Là, son visage prenait l'aspect d'une purée mousseline qui semblait se répandre. Elle ressemblait alors à une démente. Vite, je jetais sur elle la toile cirée.
Mais il y a quelque chose des crises de folie d'Emma Bovary, hein, que vous avez retrouvé sans rien savoir du début, Jacques Vallée. C'est très joli ce texte. Relisez-nous le début, Patrice Delbourg.
Elle grignotait quelques noisettes, ou bien appuyée du coude, s'amusait avec la pointe de son couteau à faire des raies sur la toile cirée.
Bon, on est à peu près resté dans l'ambiance de Flaubert avec vous, Patrice, avec Jacques Vallée. Alors avec Hervé Letellier, je ne sais pas. Hein, on...
Je vais vers Maurice Genevoix.
Non, bon.
Rappelez-vous.
Rabolio.
La Grande Guerre.
Et donc le titre.
Oui.
La chatte qui détestait les épinards.
C'est un bon titre.
Oui. C'est pas pire qu'un autre.
Non, non, c'est pas mal, c'est pas mal.
Voilà. Elle grignotait quelques miettes de thon. Et je me souviens que quand elle était plus jeune et plus câline, mon père me disait que c'était trop pour une chatte, que des croquettes auraient suffi. Elle emportait toujours une ou deux souris, ses yeux noisettes brillant d'une férocité toute féline, pour un repas qu'elle prenait à l'extérieur, loin de la cantine. J'avais pourtant pensé aux petits plats qu'elle aimait, sardines hachées, et à tous ceux qu'elle détestait. Ça allait des girolles aux épinards ou bien aux choux de Bruxelles. Il faut dire que mon père s'entêtait à lui préparer des plats végétariens. C'est alors qu'elle s'était enragée. Elle avait appuyé sa patte griffue du coude jusqu'à mon épaule et brusquement, elle m'avait mordu. Et j'avais renversé la table en formica. Je croyais qu'elle était enragée, vraiment enragée. Et cela m'ennuyait de devoir la piquer. Mais elle se tourna vers moi, menaçante, avec un regard trouble. Elle me menaça, oui, c'est ça. Je me saisis de la pointe acérée d'un couteau. C'était son heure dernière, car le couteau suisse est efficace. Elle s'appliquait à faire des moulinets avec sa queue, comme des raies dans l'espace, des gestes désordonnés et concentriques, tandis qu'elle se dirigeait sur moi. Là, son poil se hérissa, cependant que mon visage prenait l'aspect d'une purée mousseline qui semblait se répandre. Oui, j'avais peur, et alors ? Elle ressemblait à une panthère, à une tigresse démente. Vite, je jetais sur elle la toile cirée.
Ben oui, sauf qui peut. Hein.
Ben oui, bien sûr.
Avec donc la gueule de mousseline.
Ouais. Je trouve que Madame Bovary, c'est un très joli nom pour une chatte.
Pas mal, pas mal, ouais. Oui. Ouais. Donc cette femme s'est transformée en chatte.
Oui.
C'est une fable de La Fontaine.
Croyez ?
Oui.
La chatte sur la toile cirée, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est...
Un petit commentaire, Patrice Delbourg, puisque vous êtes à l'origine de ce détournement.
Moi, j'ai toujours été troublé par les gens qui faisaient des raies sur les toiles cirées. Mmh. En fait, on fait des raies quand on est enfant.
Dans
ou
la
quand on
purée.
Est, voilà, dans la purée, mousseline, on fait des raies, on fait des damiers, oui. On fait des chevrons, des bien losanges, sûr. Etc. Oui. Et surtout, en Normandie, quand on a une femme adultère qui s'ennuie, on travaille la purée. C'est important de travailler la fourchette, la purée. Et là, je suis étonné quand même qu'il parle de toiles cirées, mais bon. C'est une licence d'auteur.
Mais elle s'ennuie tellement, et puis il n'y avait pas de purée mousseline.
La purée existait à l'époque de Flaubert.
Ah, mais ouais, Madame Bovary ne mange pas beaucoup. Hein.
Non, elle tient à sa taille fine.
Absolument, elle absolument. Oui. Donc, quand on a une fourchette dans la main et qu'on joue, ben, on joue avec ce qu'on a sous les doigts, une toile cirée, non ? Essayez en rentrant chez vous, si vous avez une toile cirée.
De rayer ma toile cirée avec mon épinel. Ah non, alors.
Claire Diterzi. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Trossard et la bande des papous du jour. À suivre, jusqu'à 13h59, les drôles des pistoliers et la partie experts contre faussaires. Les faussaires seront Jean-Bernard Pouy, Lucas Fournier et Patrice Caumont. Face à eux, deux experts, Dominique Muller et Gérard Mandilla. Mais avant tout, la pause supposition avec Jacques Vallée et une petite histoire à la chute calembourgeoise. À qui la dédiez-vous, Jacques Vallée ?
Je la dédie à Jacques Jouet.
Merci d'avance.
Jacques, suppose que tu t'appelles deux.
Comme oui. Le chiffre.
Voilà. Deux, c'est un surnom familier qu'on peut donner à une femme quand elle est la deuxième du nom dans votre vie.
C'est toi, sympathique, oh là là.
C'est élégant. Oui,
c'est mieux que trois.
Macho. C'est mieux que trois. Mais ça peut être très charmant.
Elisabeth II, par exemple.
Deux, je t'emmène au restaurant. Oui.
Mais toi, tu es la première, l'unique et ma propriété. Tu as toutes les qualités pour mener une vie heureuse. Un seul défaut, tu es joueuse. Tout dans ton existence est jeu, le quotidien, le travail, les amours. Disons que tu passes la plupart du temps au casino, dans les tournois de cartes, aux courses. Une rage dévore ton temps, tes ressources. Il faut dire, tu es chanceuse. Et somme toute, deux, tu offres à ton entourage une vie aisée. Tu as une ribambelle de soupirons qui bénéficient de tes gains et que tu entraînes dans ton tourbillon. Ils ont tous pour toi le béguin. Bref, ma deux devient notre deux. Elle jouit d'un succès mondain jusqu'au jour où la chance tourne.
Et ça arrive toujours, ça.
Et oui. Deux commence à perdre, n'est-on plus capable de penser, de dormir en paix, et la chute est inévitable. Lors, le coup de grâce est donné un jour où un pari a mal tourné. La dame a d'abord perdu l'argent de tous ses soupirants. Puis vint le moment où, voulant goûter une dernière fois la joie du jeu, elle croit pouvoir se refaire en mettant sur le tapis mes biens, ma fortune. Elle hésite au dernier moment. Je multiplie mes prières et devinez ce qui arrive. Eh bien, Notre-Dame de Paris.
Notre-Dame de Paris, voilà. Je comprends, il n'a pas osé me dédier cette histoire. Hein. Il a pris un homme, finalement, oui, pour jouer le rôle de la femme.
Ah ben, je ne savais pas, oui.
Vous ne saviez pas que j'étais là.
Non, je m'excuse, François.
Mon premier a un problème avec mon troisième. Mais au diable la facilité, plutôt que de régler ses comptes avec lui, il préfère passer par un intermédiaire pour éclaircir ou pas la situation. Le plaignant, c'est Gérard Mandilla, l'intermédiaire Jacques Bertrand et le personnage concerné, Lucas Fournier. Qui écrit Gérard Mandilla ? Présentez-vous.
Eh bien, nous sommes trois, parce que c'est une lettre collective, une sorte de pétition écrite par Athos, Porthos et Aramis.
Non.
Oui, tous les trois s'y sont mis pour écrire à Alexandre Dumas.
Pas content ? On va voir.
Ils ont un certain nombre de demandes à faire à l'auteur.
D'accord.
Cher monsieur Dumas,
Nous nous mettons à trois pour vous écrire. Trois cœurs, trois épées, six mains, nous, vos trois mousquetaires, à qui était promis une gloire littéraire éternelle, avant que vous ne jetiez dans nos pages ce maudit gascon de D'Artagnan, qui ne veut en faire qu'à sa tête, qui jure comme un charretier et s'enlaille à six pas. Nous vous demandons avec la plus vive insistance de le morigéner afin qu'il cesse, entre mille excentricités, de tirer sa rapière contre tout et n'importe qui, contre nous par exemple, lorsque nous nous avisons de lui faire une remontrance. Vous avez eu la bonté, le talent, certains disent le génie, de nous parer, nous, vos mousquetaires, d'intelligence, de finesse, de spiritualité. Et c'est vrai que nous vous avions réclamé un quatrième pour jouer à la belote coinchée pendant nos gardes. Mais qu'aviez-vous besoin de gâter votre ouvrage d'un mal embouché qui fait tache dans les volumes qui nous sont consacrés ?
Quand même, il est assez séduisant. Enfin, c'est, vous êtes jaloux, en fait, non ?
Nous sommes trois.
Oui, d'accord.
Vous qui faites profession de plume, comme nous d'épée, dressez-lui donc par écrit une règle de conduite à l'instar du décalogue. En premier, sommez-le de se laver plus d'une fois l'an, de s'épouiller et de se déchausser hors du logis. La semaine dernière, lorsqu'il ôta ses bottes au quartier, le capitaine des gardes s'emporta contre celui qui, méprisant le règlement, avait apporté de la cancoyotte dans le dortoir et laissé un rat mort dans ses chausses. Nous vous implorons de lui écrire au plus tôt. Lui écrire, plus que de lui parler. D'expérience, nous savons que l'épreuve de la parole est redoutable. Si par malheur on se trouve sous le vent, sa bouche exhale une telle odeur d'écurie que nous nous demandons comment vous pourrez vous en sortir si l'aventure avec Madame Bonacieux devait s'approfondir. Au passage, si elle a froid aux pieds le soir en se couchant, que ne découvre-t-elle au chapitre 10 qu'au lit, trois mousquetaires valent mieux qu'un ? Enfin, c'est une autre histoire. Nous voulons insister également sur le vocabulaire de votre trouvaille gasconne. Vous devez d'urgence lui apprendre à jurer comme il sied à un mousquetaire du roi. Vous savez mieux que quiconque que notre langue ne manque pas de « pardieu, ventre saint-gris, morbleu et autres jarnicotons », alors que votre D'Artagnan n'a à la bouche que « dioubiban, miladiou et autres « il des putas » qui sont du plus mauvais effet à la cour. Cher Dumas, nous comptons sur votre autorité d'auteur pour régler cela avant que les hommes du cardinal, qui aussi remonté contre votre D'Artagnan que nous, lui règle son compte en un paragraphe bien senti. Mais, quoi qu'il advienne, faites-nous la grâce de nous donner copie de la missive que vous lui adressez, afin que nous puissions la produire sous son nez, s'il avait l'impudence de nier l'avoir reçue, ou pire, s'il s'en moquait comme de l'Alcoran des Mahométans. Sincère salutation, chapeau bas, Athos, Porthos et Aramis.
Ils sont fielleux quand même, hein. Je pense surtout à ce pauvre D'Artagnan, c'est lui qui a fourni, donc qui s'enlaille, qui se lave pas, qui parle mal.
Et qui ne dit mot qu'on sent.
Et donc votre lettre à vous trois, Gérard Mordia, arrive à Alexandre Dumas, Jacques Bertrand. Il y a une petite parenté d'ailleurs dans l'air, hein, il y a une petite ressemblance non, entre Jacques Bertrand et Alexandre Dumas.
Oh non, il ressemble à Balzac.
Ah, c'est vrai.
Plus à Balzac
qu'à
Alexandre Dumas.
Bon, qu'est-ce que vous en pensez, cher auteur ?
Oh, bah, c'est un peu exagéré.
Voilà.
C'est un peu exagéré, mais enfin, en même temps, il ne faut pas hésiter à faire des remontrances à ces personnages, quoi.
Ah bon ? Mais donc vous écrivez à qui ?
À D'Artagnan.
Donc vous accédez à la demande de Porthos, Aramis.
Oui, tout à fait.
Oui.
D'Artagnan, quels que soient les services que vous rendez à mon œuvre et en dépit de votre bonne renommée, je suis tenu de vous adresser ici un sermon si ce n'est une admonestation. Vous n'êtes pas le seul, pardieu, il y a d'autres personnages dans mes romans et la plupart sont mieux éduqués que vous. Vos compagnons ne manquent pas de culture, d'élégance et de finesse et votre grossièreté les blesse. Aramis, surtout, qui fait dans la dentelle et le surplis, est choqué par vos manières de gros drap. Non content d'être sale et d'avoir mauvaise haleine, vous osez les brocarder. Qu'est-ce que c'est, dites-moi, que ce mauvais calembour, un pour tous, tous bourrins. Je compte bien découvrir lequel de mes nègres vous a permis de vous exprimer ainsi. Sa solde sera sérieusement diminuée, je ne vous dis que ça. Faites un effort, que diable. Déjà, je vais devoir éloigner de vous Madame Bonacieux, qui ne peut se permettre de colporter vos mauvaises odeurs à la cour. Je ne peux me permettre, par ailleurs, de vous exclure du groupe. Malheureusement, on ne change pas une équipe qui gagne. Et si vous refusez de vous améliorer et d'essuyer vos pieds avant d'entrer dans mes histoires, je pourrais bien suggérer à quelques gardes du cardinal de vous extropier un de ces jours.
Ah, il y a une menace quand même, hein, très claire.
Oui, enfin...
En fait, vous optez quand même pour le collectif au détriment d'un personnage qui est le héros.
Ils sont trois, quoi.
Oui.
Oui, la délation marche bien quand même.
J'ai l'impression, hein. Oui, on se demande comment ils vont faire plusieurs tomes avec tout ça, d'ailleurs.
De toute façon, à l'époque, si j'ai bien compris, personne ne se lavait plus d'une fois par an.
Voilà. Même le cardinal.
Le cardinal.
Donc D'Artagnan, lui, c'est une fois par vie, une fois tous les 10 ans, non?
D'Artagnan, il est collectif.
Il est collectif.
D'Artagnan, il est collectif. Parfaitement.
Et il joue au rugby?
Non, mais il est du sud-ouest, D'Artagnan.
Et il est gascon. Voilà.
Il est gascon.
Alors, qu'est-ce qu'il pense de Dumas et à qui il écrit?
Il écrit à ses amis. À Athos, à Porthos, à Aramis. Du pivane, les amis, à moi, à nous, à vous, à l'aide, miradiou. Une ennemie plus mortelle encore que Milédido Winter et plus reptilienne que le cardinal nous menace. La pensée unique, bourgeoise et conformiste. Alexandre et ses nègres ne veulent plus de mes saillies, de mes paix et de ma fougue. Pour lui, j'avais renoncé à Hugo qui voulait me faire de moi son rubis. Pour lui, j'avais dit non à Musette qui me rêvait en Lorenzaccio. Dumas, Hiro de Puta, Louis-Philippe à la petite semaine de son feuilleton pour les grisettes et les clercs de notaire. Dumas me veut émasculer, mais crasse tibi, mihi odillé, demain ce sera votre tour. Demain il vous en collera pour 20 ans et vous figurerez des vieillards. Mes amis, mes frères, ne laissons pas la mole nous gagner. Redressons-nous, ce 19e siècle souffreteux n'est pas digne de nous. Dumas a choisi de nous entourer de nains. La Constance dont on m'a affublé est bonne à tout faire chez Marivaux, pas pour moi. Et toi, Aramis, rabaissé au rang d'un rabougri Talleyrand, te laisseras-tu ainsi traiter? Et toi, Athos, tu es un géant, la montagne des dieux. Par quelle infamie t'es-tu vu relégué dans les creux popelités de Milady? Et toi, mon Porthos, n'as-tu pas le droit d'être traité avec une force de l'âme plus puissante que celle de tes pectoraux? Nous, tous les quatre, nous la voulons à l'estomac, la littérature. Gargantua est notre père, Micromégaste notre cousin, et Cyrano de Bergerac, notre frère. Alors c'est Hugo qu'il nous faut. Demain, dès l'aube, j'irai place des Vosges, lui offrir nos personnages. Et s'il dit non, j'irai plus loin. Il y a chez les Russes de grands généraux de l'écriture qui seront coiffeurs de notre 4 talents. Et s'ils disent « niet », j'irai à Liverpool, où 4 garçons comme nous sauront décoiffer l'Angleterre. Et s'ils disent « non », du Pivan, j'irai aux Amériques, et là-bas, ils sauront comment on doit traiter des 4 fantastiques. Fuyons ensemble, quittons la maison Dumas. Ces ghostwriters fatiguent, et son fils qui se veut écrivain à son tour a des penchants pour des évaporés et des cataleux qui ne me disent rien de bon. Je vous attends ce soir, là où vous savez. Un mien cousin m'a envoyé un panier d'ail de Beaumont de Lomagne et des bocaux de ventre de veau dont vous me direz, non pas des nouvelles, c'est pour les petits, mais des romans.
Oh là là, c'est somptueux, hein. Non, je savais que c'était un personnage formidable. Donc, vous récupérez votre ami, Gérard
Mandria. Mais ils se sont réconciliés sur ça, mais
oui,
voilà.
Mais sur le dos de Dumas, quand même. Parce
avec
que...
le ventre de veau, oui. Avec le ventre de veau, voilà.
Il vous emmène chez Hugo, quand même.
Mais c'est très bien, il faut mieux être chez Hugo, qui est une très bonne maison. Une très, très bonne maison.
Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, Jacques Jouet?
Oh, je ne dirais qu'un mot, cadédiou.
J'ai bien écouté les infos, j'ai même vérifié dans le dico où c'était le Kurdistan. Peut-être bien qu'il est végétarien, j'ai prévu des filets de colin en plus du poulet au piment. Faut pas que j'hésite à marquer le coup, ça sera maquillage et bijoux, un décolleté le rendra fou. Faut pas non plus que j'en fasse des tonnes, si je suis déguisée en princesse, je suis pas sûre qu'ils me reconnaissent. Je sors le dico une dernière fois, parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Réserver les poivrons, déglacer les oignons, débiter les petits pois, ça veut dire quoi, déjà? C'est pratique les placards muraux, j'y ai dissimulé le pêle-mêle, y'a des photos que j'assume pas trop. J'ai même acheté du détachant si jamais il en venait aux mains avec le poulet au piment. J'ai choisi pour le fond sonore un truc qu'il connaît pas encore, les chants d'oiseaux du Périgord. La nappe avec les perroquets, j'avais pas vu qu'elle était ronde parce que ma table elle est carrée. Pour le poulet, pas d'à peu près, je ferai tout comme sur le papier. Ébouriffer l'endive, motiver les olives, torpiller le calva, ça veut dire quoi déjà? Prévoir un vase en cas de bouquet, ne pas le mettre en évidence au cas où il y aurait pas pensé. Éviter les sujets qui fâchent, ne pas se ruer sur les pistaches, dans les toilettes il y a du papier. Pour éviter tout incident, le bout de persil entre les dents, dans la cuisine, mettre un miroir. Je mets des bougies sur le dessert, peut-être que c'est son anniversaire, il faut rien laisser au hasard. Je sors le dico une dernière fois, parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Étouffer le merlan, le battre jusqu'au sang, rassurer les anchois, ça veut dire quoi déjà? Je comprends rien pour le poulet, j'ai suivi tout ce qui était marqué, mais c'est pas comme sur la photo. Si c'est qu'une question d'esthétique, je vais rajouter du basilic, ça sera tout vert, ça va faire beau. Y'a pas de mal à improviser, je fais confiance à mon instinct, je rajoute les filets de colin. Et si vraiment ça ressemble à rien, je passe le tout au presse-purée, ça peut s'étaler sur du pain. Après le poulet, pas d'à peu près, quand j'ai mangé, j'ai plein d'idées. Lui proposer un scrap, danser nu sur la table, déglacer Fissa, le flamber au calvin, désosser l'invité, ça se fait pas, je crois. Du persil dans les deux oreilles et l'armagnac sous les aisselles, du guacamole au cronérin, les olives sur le bout des doigts, qu'il soit ou non végétarien. Moi je suis sûr qu'il aimera ça. Moi je suis sûr qu'il aimera ça. Moi je suis sûr qu'il aimera ça.
Presque oui, les perroquets du Périgord. Dernière séquence de ce numéro de Papou dans la tête, la rencontre entre faussaire et expert. D'un côté, trois champions du bluff, Jean-Bernard Pouy, Lucas Fournier, Patrice Caumont, capables de vous faire prendre des faux pour du vrai parce que ce sont des formidables pasticheurs. Et de l'autre, les experts, Dominique Muller, Gérard Mordier. Alors certes, ils n'ont pas tout lu, mais ils ont une connaissance de la littérature qui leur permet d'identifier un auteur à son style. Et en plus, ils connaissent par cœur les trois bluffeurs. Ce sont des amis qu'ils pratiquent depuis très longtemps au Papou dans la tête de France Culture. Ils maîtrisent leur tic de langage, leur manière d'écrire, leur univers. Enfin, en principe. Voilà, le décor est planté, un face-à-face sans indulgence. Et entre eux, eh bien Patrice Delbourg qui a choisi une certaine œuvre pour ce jeu d'un auteur très connu, un auteur qu'a priori tout le monde a lu ou au moins parcouru. Ce roman, il va nous le remettre en mémoire. Les experts devront alors en écrire sur le champ et en une vingtaine de minutes la première et la dernière phrase. Aux experts ensuite de retrouver le vrai parmi les faux et d'attribuer à chacun son texte. Patrice Delbourg, on vous écoute. Alors, qui est l'auteur en jeu? Pour quel roman? Vous avez sûrement un choix qui vous ressemble, inattendu, pour nos faussaires Caumont, Fournier, Pouy, et les experts Dominique Muller, fine mouche parfois Dominique, et Gérard Mordillat. Il est en forme, Gérard?
Je ferai tout comme Dominique.
Bon. Oh, je ne te le conseille pas du tout.
Alors, qu'est-ce que vous avez choisi?
C'est un choix qui doit aller directement au cœur de Jean-Bernard Pouy, puisque j'ai choisi un roman de Frédéric Dard,
oui,
qui date de 1954. C'est donc le 9e volume de la série des San Antonio. Oui. Donc à l'époque, les communications téléphoniques se faisaient encore avec une opératrice et on écoutait la famille du raton.
Ah oui.
Dans le poste de TSF.
Oui.
Il est question dans ce livre de faux monnayeurs dans la région de Grenoble, de Jailleux, puisque c'est la région où est né Frédéric Dard. Il aimait beaucoup cette région-là. Et donc, on y voit des chiens domestiqués, munis, c'est quand même un clin d'œil à l'actualité, munis de colliers de dynamite,
ah,
et
oui,
qui font sauter les camions de la Banque de France sur les routes nationales.
C'est pas bête.
Ah, oui.
C'est la thématique. Ce sont des petits caniches, des petits équels qui sont dressés et qui viennent se glisser sous les roues des fourgons pour les faire exploser. Et ensuite, on braque, on prend la monnaie et on s'en va.
Voilà. Vous avez donné le titre ?
Non.
Oui ?
Non.
Passez-moi la Joconde.
Ah, vous ne l'aviez pas dit. Hein.
Et la Joconde, justement, c'est le nom d'une jeune femme, une belle inconnue brune et assez noueuse, qui orchestre l'affaire.
C'est quoi une femme noueuse ?
Qui a des attaches assez marquées.
Ah, oui.
Quand même. Ce qui veut dire qu'elle a un caractère...
Bien trempé.
Affectif, bien trempé, ça je vous laisse cette considération, Françoise. Alors, en tous les cas, une manière de faire marcher les hommes, et particulièrement San Antonio, qui ne demande que ça, qui est quand même un peu le sel du livre. Alors bon, évidemment, il y a du schpounz dans le lexique, vous vous imaginez. Et puis, il y a beaucoup de péripéties que je ne vais pas vous raconter.
Non,
bon, ça ne tient pas sur un timbre-poste. Mais je vais quand même vous parler du début.
Absolument, l'ambiance.
Le début
l'ambiance.
Du Passez-moi la Joconde.
Oui.
Alors, le début, c'est San Antonio qui se rend en vacances dans les Alpes, au volant de son automobile, la nuit, et au détour d'un virage, sur la route, un chien, mort sur la chaussée dans... Le halo de ses phares.
Point.
Point.
Bon, la fin.
La fin du récit, c'est un échange. C'est donc d'abord le chef de San Antonio qui lui dit qu'il faudrait
mais
quand même...
Ne dites pas ce qu'il va lui dire quand même.
Si, mais qui lui dit, bon, cette affaire est classée, on va repartir.
Oui.
À une autre. Et puis San Antonio qui lui dit qu'il pourrait prendre un peu peut-être de vacances.
Bon, ça paraît très bien. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si Dominique Muller, experte, a une très bonne connaissance de San Antonio, mais je peux me tromper.
J'en ai une exécrable, mais j'espère en avoir une suffisante de mes autres camarades pour les reconnaître.
Voilà, exactement. Et Gérard Mordillat, il a lu beaucoup San Antonio.
Beaucoup, c'est un peu exagéré, mais j'en ai lu, oui. C'est tellement longtemps que je ne sais plus du tout à quoi ça ressemble.
Vous allez voir.
Moi non plus.
Patrice Gaumont, Jean-Bernard Pouilluc à Fournier, jamais lu.
Jamais
lu.
J'en ai lu un il y a très très longtemps.
Oh, mais c'est formidable, vous êtes tous neuf face à cette œuvre de San Antonio. C'est merveilleux. On retrouve trois faussaires, ma foi, hilars presque, hein, je dirais, parce qu'ils ont eu la chance de pasticher Frédéric Dard dans « Passez-moi la Joconde ». Quel bonheur, non ?
Ah bah oui, enfin, oui.
Bon, d'accord. Et nos experts Dominique Muller, Gérard Mordillat, qui ont avoué qu'ils n'avaient pas une maîtrise phénoménale de San Antonio, mais peut-être des faussaires, oui. Lucas Fournier, Jean-Bernard Puy, Patrice
Ça pourrait aller mieux quand même.
Voilà.
En même temps, c'est une caractéristique des experts dans tous les domaines, c'est de ne rien y connaître et de parler sans savoir.
Il faut faire semblant, oui. C'est tout. Il faut de l'aplomb. Oula.
Alors, vous êtes le bienvenu. J'ai en main les pastiches et le vrai texte. L'original, je mélange, on distribue, chacun prend un texte pour lecture. Et j'en garde un, puisqu'il faut un quatrième lecteur, qui sera donc une lectrice. Donc c'est parti, vous allez avoir des lectures, un bonheur de lecture à écouter. Premier lecteur, Lucas Fournier.
Le début. Pour San Antonio, les vacances, c'était la plage. Déserte si possible, et la mer. Disons, bleu pétrole. Là, on ne voyait que Quick... Les essuie-glaces pleuraient en grinçant et des pancartes illisibles annonçaient les préalpes. Et tout à coup, les phares de la PL-17 découpèrent la silhouette d'un grand chien écrasé, coupé en deux. La fin ? Parfait, souffla le substitut. Tout ça est bien carré, si je puis dire. On en a fait le tour. À propos de tour, insinua San Antonio, je ferai bien, si vous le permettez, celui des rosés de Provence.
C'est drôle, ça, non ?
C'est plutôt bien, oui.
Oui.
Alors, comme c'est le tout premier que j'entends, j'aurais tendance avec enthousiasme à me dire « Mais oui, c'est du San Antonio tout craché !»
Oui.
Si seulement je savais à quoi ça ressemblait.
Mais première très bonne impression. Et pour vous, Gérard Mordillat ?
Non, moi, je ne crois pas que ça soit du San Antonio, parce que ça me paraît d'une langue, finalement, trop... ordinaire.
Trop ordinaire.
Ah oui. Oui, c'est pour ça que je le dis avec un Z.
parce que il me semble que Frédéric Dard aurait écrit ça autrement. Là, la description est très factuelle, presque c'est écrit comme un notaire. Alors, je ne pense pas que...
Et justement, c'est un français presque banal, donc justement, et ça ne tombe pas dans le piège de la bonne grosse blague.
Oui, mais pour le début, pour San Antonio, les vacances, c'était je ne sais pas quoi.
La plage.
La plage. La plage. Pourquoi est-ce qu'il dit « et la mer ensuite » C'est bizarre, c'est redondant quand même.
Voilà. Le seul San Antonio dont je me souvienne, ça commençait, pour un Mexicain, c'était pas un Mexicon. Et donc, je crois que j'entends plutôt ce genre d'attaque chez San Antonio.
Donc là, vous dites quand même que ce serait écrit...
Par
comme
un faussaire.
Oui, mais comme un notaire, c'est pas très flatteur pour vos camarades Lucas Fournier, Jean-Bernard Pluis, Patrice Caumont, quand même.
Alors, si vous préférez, je peux dire comme un objectiviste américain.
Ouf. Oui, voilà.
Ça me paraît mieux, oui. Deuxième lecture, celle que va nous faire Jean-Bernard Pluis.
Le début. « La vache !» cria San Antonio en découvrant le chien dans les phares de la Citroën. Les papates en l'air, le péritoine exposé sur l'asphalte, le kleps aurait pu gésir à Saint-Denis. Mais là, c'était pile le tournant de Bourgoin, un mauvais. Ulysse, c'est quand il s'est radiné de ses vacances qu'il a eu droit à la scène du clébar. Moi, c'est quand je décanille, se dit San Antonio, en passant plein pot sur la bête.
Alors là, tout y est, n'est-ce pas, justement, le chaud... En même temps, la culture de Virgile, etc. Tout ça, c'est trop, à mon goût, c'est un peu trop.
Là, quand même, dans la syntaxe, c'est quelque chose qui me paraît assez proche de Dard, je crois.
La fin, peut-être, oui.
Les carottes sont cuites, mais c'est pas la fin, les haricots. Minute papillon, objecta San Antonio. Chef, je suis haoussien et on est déjà le 4 août. Certes, San Antonio, mais on a le plombier de Bourg-en-Bresse à scoltiner. Plombier, plombier, comme dit Napoléon, qui est aussi un haussien, le salut, c'est la fuite. Ciao, je me barre, à Ajaccio.
Ah, c'est pas mal, hein, quand même.
Le salut, c'est la fuite, évidemment, ça c'est bien.
Oui.
Moi, je pense que ça, c'est le faussaire ou San Antonio, ou Frédéric Dard, c'est pas loin, quoi. Il faut un peu entendre les autres, mais j'aimerais le réécouter parce que je trouvais, plus que dans le vocabulaire, dans la syntaxe, surtout du début, la façon d'écrire, quelque chose là qui me faisait penser à un auteur de polar.
Bon, vous l'écouterez une deuxième fois, au deuxième tour. Et pour vous, Dominique Muller, donc.
Alors, c'est donc ou San Antonio, que j'avais déjà reconnu précédemment, donc, voilà, ou Jean-Bernard lui-même. C'est un compliment. En l'occurrence, je trouve qu'il y a une espèce de fraîcheur dans les blagues pourries, justement,
oui.
Mais lancées sans le moindre complexe, qui est très charmante, ça.
Oui, absolument. D'ailleurs, ça fait rire.
Voilà, et donc, c'est ou Jean-Bernard ou San Antonio.
D'accord.
Qui n'y va pas par quatre chemins, quoi.
D'accord.
Qui fait du San Antonio.
Oui, parce qu'il n'a pas de raison de s'en priver.
Voilà, exactement.
Patrice Caumont, troisième lecteur.
Après six lourdes plombes au volant, la vigilance et la nuit commencent à tomber, tandis que la soif et la route auraient plutôt tendance à grimper. C'est une épreuve de montagne. Le bitume slalom, les épingles à cheveux me défrisent. Et là, pan, dans les phares, un cadavre. Je pile et me retrouve face à un kleps, mais un clébard éclaté, explosé, une vraie pâtée de chien.
Oui, la fin.
Eh bien, commissaire, le sourire a changé de joconde. Veni, vidi, vinci, dirait-on. Mais puisque vous appréciez la peinture et les chiens, j'ai là une affaire plutôt braque. Moi, je pensais plutôt prendre un petit repos pour me repeindre la façade et aérer le matelas de nicotine de mes bronches.
Alors,
les allusions picturales me feraient plutôt penser d'emblée à Patrice Caumont.
Ah oui, c'est notre aquarelliste.
C'est toute une culture de la peinture, braque, etc. Enfin, tout ça. C'est lu par lui, en plus, avec beaucoup de conviction. Et il y a un nombre de jeux de mots énormes, de calembours, je dirais, du Patrice Caumont, quand même. Oui.
Bon, c'est un cri du cœur. Hein. Elle l'affirme, Gérard Mordillat.
Oui, moi aussi, je pense que c'est pas du Frédéric Dard, parce que, par exemple, si lourd de plombe, c'est quelqu'un qui pratique pas l'argot, qui a écrit ça.
Qui veut en
faire, mais qui pratique. On dit jamais si lourd de plombe. On dit si plombe, jamais si lourd de plombe.
Oui.
Donc, il y a là quelque chose qui ne fonctionne pas. Et il y a d'autres passages aussi comme ça où on sent que il y a eu un effort très louable du faussaire pour mettre
de la blague,
de l'argot, de la blague, des trucs. Et puis bon, la citation latine, tout ça. Surtout qu'elle n'est pas transformée. Si encore elle était transformée, mais non, elle n'est pas transformée. Je pense que chez Frédéric Dard, on demandera à Patrice Delbourg, il nous aurait transformé ça immédiatement en un calembour immédiat. Mais là, non. Alors ça, c'est pas. En tout cas, c'est un faussaire. Je sais pas encore qui, mais c'est un faussaire.
Bon, mais tout ça est très argumenté. Hein. Bravo en tout cas pour vos argumentations.
Et notre science consommée de Frédéric Dard.
Ah, absolument, absolument, c'est magnifique. Quatrième texte que je vous lis. C'était bien un chien qui se tordait sur la route. Dans la clarté de mes phares, je l'avais pris pour une feuille de journal chiffonnée et agitée par la brise nocturne. Mais au fur et à mesure que je m'en approchais, je voyais qu'il s'agissait d'un clébard, un clébard blanc. Il s'était fait sucrer par une tire et il remuait encore les cannes, mais il devait avoir les reins cassés. La fin ? Enfin, dit le boss, maintenant, ce ne sont plus nos oignons, nous avons du pain sur la planche. Vous êtes en forme ? Assez, je murmure. Les vacances, patron, il n'y a encore que ça pour retaper un homme.
Je ferai une remarque de même nature, que là aussi il y a des efforts louables, mais sucré par une tire, c'est pas du tout de l'argot.
Ça surtout veut pas sur du... la fin, je sais pas si tu as remarqué, au début c'est un langage assez châtié, et puis tout à coup on a le sentiment que le faussaire s'est dit « Zut, faut que je mette un peu d'argot dedans maintenant, car il n'y en a pas beaucoup ».
Donc vous êtes d'accord tous les deux, c'est du pastiche.
Oui, c'est du pastiche, oui.
Bon, de qui on verra
moi,
tout à l'heure.
Moi je dirais Lucas. Parce que je ne le sens pas familier avec cette sorte de... Je sens un très bon élève.
Sucré par une tire. Ça lui est revenu voilà, comme ça. Voilà.
Et qui donc, très sagement, fait un pastiche. J'essaye de faire des circonvolutions.
Pour rester ami,
pour
quand
dire
même.
Que c'est très bien, qu'il a fait des efforts.
Il y en a un autre qui est traité de notaire, donc finalement.
Que c'est très laborieux, tout ça. Voilà.
Je crois que c'est pire, le notaire. Hein. Oui. Et pour vous, Gérard Mandia.
Non, pour moi aussi, c'est un pastiche de quelqu'un qui s'applique, mais qui là aussi a une connaissance extrêmement lointaine, à la fois du style de Frédéric Dard et de l'usage de l'argot.
Alors, vous savez quoi ? Vous allez avoir un deuxième tour. Et là, il faut vous prononcer à chaque lecture.
Son auteur, oui.
Eh oui. Eh oui. Lecteur Lucas Fournier.
Pour San Antonio, les vacances, c'était la plage, déserte si possible, et la mer, disons bleu pétrole. Là, on ne voyait que Quick. Les essuie-glaces pleuraient en grinçant et des pancartes illisibles annonçaient les préalpes. Et tout à coup, les phares de la PL-17 découpèrent la silhouette d'un grand chien écrasé, coupé en deux. La fin.
Découpé, il y a une petite répétition, c'est pas très grave.
C'est joli, c'est une allitération aussi, on peut dire, découpé. Hein.
La fin, si vous le voulez.
Oui.
Parfait, souffla le substitut. Tout ça est bien carré, si je puis dire. On en a fait le tour. À propos de Tours, insinua San Antonio, je ferai bien, si vous le permettez, celui des Rosés de Provence.
Vous aviez dit que c'était très bien et que c'était peut-être du San Antonio, Dominique.
Oui, hein. Est-ce que je peux attendre la lecture du deuxième ?
Non.
Parce que...
non. Ah non. Non, non, au fur et à mesure.
Eh bien, alors je dis,
plouf, plouf.
Attends, il me manque un auteur, de toute façon. Alors je dis Jean-Bernard. Je dis Jean-Bernard Puy.
D'accord.
Qui n'est pas loin de Frédéric Dard. Ni en notoriété, ni en production, ni... Ah oui.
Ni côté Rosé de Provence.
Voilà. Je dis Jean-Bernard.
D'accord. Et pour vous, Gérard Mandia ?
Voilà, j'avais aussi encadré Jean-Bernard Puy pour la PL-17, c'est son âge, et pour le Rosé de Provence, à mon avis. C'est son âge aussi. Et surtout, il ne cherche pas à faire l'effort de placer de l'argot, mais il trouve une langue naturelle qui se rapproche vraisemblablement plus de son propre style que de celui de Frédéric Dard.
D'accord, tout en faisant un texte qui correspond un peu à des écrits de notaire, avez-vous dit.
Bien sûr, puisque...
Notaire et Jean-Bernard Puy, ça ne marche pas trop ensemble.
Mais il respecte à la perfection la consigne d'écriture. Chaque élément est donné dans la liste telle qu'elle a été produite par Patrice Delbourg. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas ni de dégagement poétique, ni de commentaire. On neige, comme je le disais, si vous préférez, comme les objectivistes américains. C'est du Resnikoff.
Oh, écoutez,
ce qui est rapide.
De Jean-Bernard Puy. Maintenant, c'est à vous de lire Jean-Bernard Puy. Et quel texte lisez-vous à eux de dire ?
Le début.
La vache, cria Saint-Antonio en découvrant le chien dans les phares de la Citroën. Les papates en l'air, le péritoine exposé sur l'asphalte, le kleps aurait pu gésir à Saint-Denis. Mais là, c'était pile le tournant de Bourgoin, un mauvais. Ulysse, c'est quand il s'est radiné de ses vacances qu'il a eu droit à la scène du clébard. Moi, c'est quand je décanille, se dit Saint-Antonio, en passant plein pot sur la bête. Et la fin, ouais. Les carottes sont cuites, mais c'est pas la fin des haricots. Minute papillon, objecta Saint-Antonio. Chef, je suis aoûtien et on est déjà le 4 août. Certes, Saint-Antonio, mais on a le plombier de Bourg-en-Bresse à se coltiner. Plombier, plombier, comme dit Napoléon, qui est aussi un aoûtien. Le salut, c'est la fuite. Ciao, je me barre à Ajaccio.
Alors, Gérard Mordillat.
Bah pour moi, ça, c'est du Frédéric Dard. Des canilles, etc. L'usage de l'argot est la très naturelle.
Oui.
Et puis, le côté, il passe sur le chien à la fin, ça aussi, ça me paraît très bien. Il n'y a pas de pathos, il n'y a rien. Non, c'est du Saint-Antonio.
Le salut, c'est la fuite.
Le salut, c'est la fuite. Et ciao, bonsoir, je me barre à Ajaccio. Ah, c'est une fin magnifique.
Je suis d'accord.
Ce qui est très charmant, c'est la naïveté. Il y a une espèce de fraîcheur, quoi, avec des blagues vraiment pourries.
Les carottes sont cuites. Peut-être qu'à l'époque, c'était pas aussi pourri. Maintenant.
Le salut, c'est la fuite, comme dit le plombier. Enfin, tout ça, voilà. On n'oserait pas le faire.
C'est drôle, quand même.
Oui, c'est drôle.
Très bien, vous êtes d'accord. 200 Antonio, là. Patrice Caumont, à vous de lire.
Par lui-même, donc.
Par lui-même, on est d'accord.
Après si lourdes plombes au volant, la vigilance et la nuit commencent à tomber, tandis que la soif et la route auraient plutôt tendance à grimper. C'est une épreuve de montagne. Le bitume slalome, les épingles à cheveux me défrisent. Et là, pend dans les phares un cadavre. Je pile et me retrouve face à un kleps, mais un clébard éclaté, explosé, une vraie pâtée de chien.
Ouais, après.
Fin. Eh bien, commissaire, le sourire a changé de joconde. Veni, vidi, vinci, dirait-on. Mais puisque vous appréciez la peinture et les chiens, j'ai là une affaire plutôt braque. Moi, je pensais plutôt prendre un petit repos pour me repeindre la façade et aérer le matelas de nicotine de mes bronches.
Alors, c'est un fumeur aussi, hein.
Très joli texte, mais de ouais. Patrice Caumont.
De Patrice Caumont, vous maintenez les allusions picturales, braques, c'est Caumont. Vous êtes d'accord, Gérard ?
Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Dominique. Et voilà, on peut voir quand même quel effort a été fait et avec quelle grâce pour essayer de se glisser dans la peau de Frédéric Dard. Mais c'est...
Ça vous inquiète pas un peu d'être d'accord sur tout?
Oh
comme
non,
ça.
D'abord, je suis très flattée d'être d'accord avec Gérard Mordillat.
D'accord.
Il y a d'autres personnes, je serais beaucoup plus inquiète, mais dans ce cas précis, au contraire, ça me rassure.
Bon, je vous lis le dernier texte. C'était bien un chien qui se tordait sur la route. Dans la clarté de mes phares, je l'avais pris pour une feuille de journal chiffonnée et agitée par la brise nocturne. Mais au fur et à mesure que je m'en approchais, je voyais qu'il s'agissait d'un clébard, un clébard blanc. Il s'était fait sucrer par une tire et il remuait encore les cannes, mais il devait avoir les reins cassés. La faim. Enfin, dit le boss, maintenant ce ne sont plus nos oignons. Nous avons du pain sur la planche. Vous êtes en forme ? Assez, je murmure. Les vacances, patron, il n'y a encore que ça pour retaper un homme. Alors, il vous reste Lucas Fournier, me semble-t-il.
Eh bien, oui. Nous allons attribuer cela par solidarité à Lucas Fournier.
Donc, voilà. Je m'étonne qu'il n'ait pas écrit rognon au lieu de rein, parce que c'est le seul mot qui reste à peu près convenable dans une phrase.
Vous avez dit tout à l'heure qu'il avait fait des efforts louables pour faire de l'argot et que ce n'était pas du tout son moyen d'expression habituel.
Oui, mais il a raté rein.
Voilà.
Bon, si on résume, vous êtes d'accord sur Jean-Bernard Pouy pour le premier texte lu par Lucas Fournier, dans lequel il y avait une voiture qui s'appelle la PL17. Je ne sais pas du tout ce que c'est qu'une PL17.
C'est une camionnette, non ?
Personnellement.
C'est une Panhard
avec un moteur à l'avant.
Ah bon, d'accord.
C'est qui faisait un bruit épouvantable.
Ensuite, le deuxième texte qui était lu par Jean-Bernard Pouy, vous l'attribuez tous les deux à Frédéric Dard. Il y avait les carottes sont cuites, le salut, c'est la fuite, cette formule magnifique que vous avez saluée. Troisième texte lu par Patrice Caumont, un texte d'aquarelliste, avez-vous dit, avec cette maladresse si lourde de plombes, on dirait des plombes, mais pas si lourde de plombes, d'après Gérard Mordillat. Donc c'est un texte de quelqu'un qui ne maîtrise pas non plus très bien l'argot, et c'est Patrice Caumont. Dernier texte que je viens de vous lire, des efforts louables pour faire de l'argot, être sucré par une tire, etc. C'est du Lucas Fournier, on ne se refait
oui,
pas.
Certaines
on...
applications, oui.
Voilà, c'est de l'argot du 8e arrondissement.
Oui, mais oui, c'est de l'argot bien élevé, quoi.
Bon, eh bien, qui a en main le vrai texte de Santonio? Eh bien, c'est moi.
C'est pas possible.
Non.
Ce que
c'est
vous avez attribué,
appliqué, oui, laborieux.
Du 8e arrondissement.
Oui, laborieux.
Voilà.
Oui.
Réparatif.
Vous
gna,
voulez
gna,
bien
gna,
nous
gna,
lire, Patrice Dabrowski?
Gna, gna, gna.
Puisque
gna,
c'est
gna.
Vous qui avez apporté ce joli texte.
C'est du jeune d'art, hein.
C'est
du
dire,
c'est du jeune d'art, jeune Frédéric.
C'est du Darlight.
Donc il s'essaye à l'argot, peut-être.
Non,
il lâche pas encore les chiens, bien qu'il y ait un kleps qui soit écrasé au début. C'était bien un chien qui se tordait sur la route. Dans la clarté de mes phares, je l'avais pris pour une feuille de journal chiffonnée et agitée par la brise nocturne. Mais au fur et à mesure que je m'en approchais, je voyais qu'il s'agissait d'un clébard. Un clébard blanc. Il s'était fait sucrer par une tire, il remuait encore les cannes, mais il devait avoir les reins cassés. « Enfin, dit le boss, maintenant ce ne sont plus nos oignons, nous avons du pain sur la planche. Vous êtes en forme ?»« Assez, je murmure. Les vacances, patron, il n'y a encore que ça pour retaper un homme. »
Ça fait 2-0 pour Dominique Muller, Gérard Mordiga, c'est bien du Frédéric Dard et Lucas Fournier. Vous avez été pris pour Frédéric Dard, ça vous touche ?
Non.
Ça vous fait rien ?
Ça ne fait rien pour l'instant, parce que j'attends de savoir qui a écrit les autres textes, surtout.
Ah, évidemment, eh ben, on va le voir tout de suite, avec vous d'ailleurs. Ouais. On commence, on
je
refait
comprends
les
pourquoi
lectures.
Je n'ai pas lu plus de 100.
Oui, moi aussi, voilà, oui.
Mais il est au début, il lâche pas encore la facétie, le calembour,
il est, ouais, il
est dans
mezzo,
la retenue,
quoi.
Là, c'est un texte sage. Hein.
Ah oui, ouais,
On va vous refaire les lectures et puis on va voir si vous avez gagné sur les autres ou pas.
Mais
donc,
si on s'est trompé,
le
on s'est
lecteur, trompé. Lecteur, bah oui, lecteur Lucas Fournier.
Le texte que tous les deux ont attribué
à
Jean-Bernard Pouy commence par « Pour San Antonio, les vacances, c'était la plage, déserte si possible, et la mer, disons bleu pétrole. Là, on ne voyait que Quick, les essuie-glaces pleuraient en grinçant, des pancartes illisibles annonçaient les préalpes. Et tout à coup, les phares de la PL-17 découpèrent la silhouette d'un grand chien écrasé, coupé en deux. La fin. Parfait, souffla le substitut. Tout ça est bien carré. Si je puis dire, on en a fait le tour. À propos de tour, insinua San Antonio, je ferai bien, si vous le permettez, celui des Rosées de Provence. Et vous avez dit que ce texte était de Jean-Bernard Pouy.
Et il est de toi.
Et il est de Jean-Bernard Pouy.
Ah, ah oui, bravo
quand même. Quand même,
bah,
ah, ah, j'ai eu peur, hein.
Ce qui prouve qu'il a un vrai style.
Mais oui, mais oui.
C'est impossible à maquiller.
Je me souvenais que les premiers Santonio, c'est comme vient de dire Patrice, ne sont pas écrits à toute vitesse, jeu de mots sur jeu de mots. C'est écrit assez patiemment. Et de temps en temps, il y a une grosse blague qui arrive, qui n'est pas prévue, et qui tombe comme un chien sur la route, quoi.
très bien dit. Hein. Alors relisez-nous, Jean-Bernard Pouy, le texte qui avait été pris pour du Frédéric Dard par Dominique Muller et Gérard Mandia. On sait maintenant que ce n'est pas du Frédéric Dard. Vous le lisez et vous nous dites après.
La vache, cria San Antonio en découvrant le chien dans les phares de la Citroën. Les papates en l'air, le péritoine exposé sur l'asphalte, le kleps aurait pu gésir à Saint-Denis. Mais là, c'était pile le tournant de Bourgoin, un mauvais. Ulysse, c'est quand il s'est radiné de ses vacances qu'il a eu droit à la scène du clébard. Moi, c'est quand je décanille, se dit San Antonio, en passant plein pot sur la bête. Et la fin. Les carottes sont cuites, mais ce n'est pas la fin de l'haricot. Minute, papillon, objecta San Antonio. Chef, je suis aoûtien. On est déjà le 4 août. Certes, San Antonio, mais on a le plombier de Bourg-en-Bresse à scoltiner. Plombier, plombier, comme dit Napoléon, qui est aussi un aoûtien. Le salut, c'est la fuite. Ciao, je me barre à Ajaccio.
Alors, on sait que ce n'est pas du Pouy, on sait que ce n'est pas du Dard, c'est de qui ?
Eh bien, c'est de Lucas Fournier.
Eh bien, bravo, parce que ça prouve une chose qui est importante pour l'histoire de la littérature. C'est que les San Antonio ont été, en réalité, tous écrits ensuite par Lucas Fournier, voilà. Et non pas par Frédéric Dard. Et encore aujourd'hui, il en publie. Et bien voilà, c'est admirable. Je crois qu'on a fait là un grand pas
temps, l'expertise.
Et surtout, je constate que Lucas Fournier n'est pas du tout l'homme que l'on croit.
Eh ben oui.
C'est ça, une manie, un argot avec une aisance déconcertante. Ah oui, oui. Ah oui.
Donc il a été pris deux fois, si je puis dire, pour Saint-Antonio, et Lucas oui. Fournier.
Une fois pour Saint-Antonio, une fois pour Frédéric Dard. Voilà.
Oui, ça vous touche quand même.
Ah oui, oui.
Hein et, ah oui. Et au fond, vous l'avez beaucoup lu ou pas?
Ah mais jamais.
C'est comme ça qu'on fait les meilleurs pastiches.
C'est magnifique.
Bon, bon, alors ça fait un zéro, hein, zéro. Mais là, vous allez avoir votre heure de gloire avec le texte de Patrice Caumont, qu'il a si bien lu, peut-être parce que c'était son texte, et les fameux six lourds de plombe.
Mais non, c'est Braque qu'il a fichu une dent.
Mais non, mais je pense que Jean-Bernard, pour lire l'argot, c'est pour ça que tout le monde a cru que c'était de moi-même, que c'était de Dard. C'est Jean-Bernard, quand il lit... Si Jean-Bernard le lisait...
Ça... Allez-y, Jean-Bernard, puis lisez le texte de Patrice Caumont. On va voir s'il est moins Caumont.
Après six lourds de plombe au volant, la vigilance et la nuit commencent à tomber, tandis que la soif et la route auraient plutôt tendance à grimper. C'est une épreuve de montagne, le bitume slalom, les épingles à cheveux me défrisent. Et là, pan, dans les phares, un cadavre. Je pile et me retrouve face à un kleps, mais un clébard éclaté, explosé, une vraie pâtée de chien.
C'est vrai qu'il lit mieux le Dard et donc le Caumont que Patrice Caumont lui-même. Hein. Voyez la fin. Enfin.
Eh bien, commissaire, le sourire a changé de joconde. Veni, vidi, vinci, dirait-on. Mais puisque vous appréciez la peinture et les chiens, j'ai là une affaire plutôt braque. Moi, je pensais plutôt prendre un petit repos pour me repeindre la façade et aérer le matelas de nicotine de mes bronches.
Ah, la nicotine de mes bronches, c'était évident que c'était Patrice Caumont aussi, bien
oui,
sûr.
Aussi.
Mais c'est vrai que lu par Jean-Bernard Puy, c'est plus crédible comme pastiche.
Tout de même.
Bah,
bah, preuve, d'ailleurs, c'est du Caumont, hein, de toute façon.
Oui. Ben oui, et vous marquez un point, dites donc.
Si le chien est un braque, c'est que du Caumont. Voilà. Puy aurait pris un teckel,
par exemple.
Par exemple. Nous n'avons fait qu'intervertir, en fait, Lucas et Saint-Antonio.
Voilà. Oui, c'est ça, ce qui est quand même une grosse erreur. Hein.
Oui.
Enfin, moi, j'en suis très heureuse pour Lucas.
Oui.
Oui. Donc, vous avez deux points. Vous êtes imbattable sur Jean-Bernard Puy et sur Patrice Caumont. Pour les autres, vous reviendrez.
Ah oui.
Qu'est-ce que vous pensez des experts et des faussaires, Patrice Delbourg?
Non, c'est vrai, c'était pas très aisé, parce que c'est un texte quand même qui est assez tenu. Bon, il se lâche pas, il n'y a pas de gaudriole, il n'y a pas de grosses blagues. Mais il explique très bien, parce qu'il avait un bras mort. Vous savez, Frédéric Dard, il avait un bras paralysé. Et plus la paralysie de son bras augmentait, plus il allait dans la facétie, le calembour et l'éclatement de la syntaxe. Donc là, c'est au début, c'est 54, et sa maladie n'a pas encore trop progressé, donc il reste encore classique. Excusez-moi de cette petite intervention pathologique,
oui,
je ne peux pas m'en empêcher.
Oui, bien sûr.
Et les experts, vous les avez trouvés sympathiques?
Excellent. Excellent, beaucoup. Ils sont quand même tous les deux proches de la retraite et je les trouve encore très vaillants.
Vivace.
C'est un métier, qu'est-ce que vous voulez?
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Stressart avec Anne de Pelchin et Emmanuel Couturier à télécharger sur franceculture.fr. C'est le podcast, abonnez-vous, c'est simple, c'est gratuit. Et vous pourrez nous réécouter à volonté, nous emmener partout en balade avec vous. Les commentaires, c'est tout en bas après la pub qu'il faut les poster ou alors sur notre page Facebook. Vos impressions, vos questions, vos remarques, tout ce qui nous concerne et vous intéresse, vous êtes les très bienvenus les amis. À dimanche 12h50, au revoir. Passez un très bel après-midi en bonne compagnie à l'écoute de France Culture.
Quoi, quoi ?